Alors Philippe va nous parler de l'invention de nouveaux lieux sur ces scènes punk. Voilà, écoute, je te laisse la parole, Philippe. Je vais pas commenter le titre, c'est toi qui vas le faire.
Donc j'ai appelé ça chronologie et philosophie de l'invention de nouveaux lieux. En fait, c'était pour, par période, je me suis limité à Paris parce que c'est la région parisienne, parce que c'est ce que je connais le mieux par expérience. Par période, ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu qu'un seul type de lieu par période, mais il y a des nouveaux types de lieux, en tout cas, qui se sont dégagés de manière très claire. J'ai abandonné l'idée au départ, je voulais faire une partie sur la période 76-78, mais en fait c'est juste une intro, parce que ce qu'on peut voir dans la première période, c'est qu'en fait c'est l'auberge espagnole, dans le sens où il y a un peu de salles de concert, un peu de clubs, beaucoup de théâtre et de café-théâtre, comme de lieux où les groupes punk vont jouer, un peu de lycée, un peu d'université, un peu de maison de la jeunesse et de la culture. Les groupes vont aller jouer partout où ils sont susceptibles d'être accueillis, mais il n'y a pas l'invention d'un lieu spécifique, la création d'un lieu spécifique sur cette période-là. Donc si on part du principe que il y a toujours eu la recherche de lieux d'expression pour le punk, parce que c'était pas si évident que ça d'en trouver, il y a des moments où il y a eu une créativité, pas uniquement dans la musique, dans les textes, dans la prestance, mais aussi sur le lieu lui-même. Et donc, comme je le disais, ça ne veut pas dire que les périodes que je vais vous exposer, il n'y a eu que ça, mais ça veut dire en tout cas que ça a été quelque chose de nouveau à ce moment-là. Donc la première partie, 1978-1985, le squat contre le reste du monde. En gros, à Paris, région parisienne, à cette époque-là, qu'est-ce qu'on a ? On a des clubs de noctambules parisiens, comme le Rose Bonbon, par exemple, qui ne vont pas convenir beaucoup au groupe punk, parce que finalement, c'est contraignant, les concerts ils commencent tard, ça veut dire que ceux qui habitent en banlieue, ils peuvent pas rentrer chez eux. Le prix est finalement relativement élevé, le service d'ordre n'est pas spécialement conciliant, donc ça, les groupes y jouent, mais ça ne leur convient pas. Et puis il y a l'incompréhension culturelle de la banlieue, c'est-à-dire avec tout ce réseau des maisons de la jeunesse et de la culture, implantées depuis longtemps, avec cette mission d'éducation populaire, qui souvent est gérée au niveau service municipal de la jeunesse pour la musique, par en gros des babacools, qui du coup ne comprennent rien à cette musique saturée, ne comprennent rien à cette expression, et qui sont un peu hostiles et méfiants par rapport à un public remuant, parfois très alcoolisé, voire plus. Et avec des ingénieurs du son qui n'ont aucune culture de la guitare saturée et qui du coup ne savent jamais comment ils vont se débrouiller pour faire un son correct, ou qui s'en foutent carrément parce que ça leur parle tellement pas qu'il n'y a pas besoin de se donner la peine d'essayer d'avoir un bon son, d'autant plus que c'est aussi des groupes qui la plupart du temps eux-mêmes connaissent pas bien la technique de ce qu'ils veulent réellement, donc ça ne marche pas. Donc sur cette première période que j'étudie, 78-85, le squat comme espace d'expression libre, donc je vais faire un très rapide résumé d'une question que j'avais abordée précédemment dans une communication sur punk et autonomie. À partir de 1978, il y a une proximité entre une partie de la mouvance punk et une partie du mouvement autonome, en particulier dans l'investissement des squats. Donc le mouvement autonome, on va le définir très simplement comme étant à l'extrême gauche de l'échiquier politique, sur des bases libertaires et communistes. Il y a un refus commun entre autonome et punk, qui est le refus des idéologies, le refus de l'autorité et des hiérarchies, le rejet de l'école, de la police, du travail, et un certain goût de l'outrance dans l'expression. Le squat, c'est un espace qui est arraché à la propriété. Il est de fait libéré, puisqu'il n'y a pas de loyer, le cadenas ou la porte est forcée, donc on y rentre par effraction, par rapport aux lois en tout cas. Un espace de liberté où la manière de s'exprimer et de se comporter est plus libre que dans des espaces commerciaux. Et se côtoient là-bas les jeunes autonomes qui, eux, sont très tournés vers la politique, et les punks qui seront plus portés sur une révolte existentielle, une radicalité plus symbolique et une expression culturelle. c'est une auto-organisation complète, parce que s'il y a une scène, il faut la fabriquer soi-même. La sono, il faut trouver un endroit où la louer et essayer de ramener du matériel, voire le voler. A priori, en 78, le squat de la Parmentière, qui était une ancienne usine rue des Pyrénées dans le 20e, qui a été ouvert par un groupe autonome qui s'appelait Camarade, c'est, je pense, le premier squat dans lequel il y a eu des concerts punch. Entre 80 et 83, il y a les festivals Rock Against Police. Alors là, c'est un conglomérat de genre assez différent, parce qu'il y a des gens qui sont issus de l'autonomie, il y a des gens qui sont plus dans la problématique, surtout dans la problématique immigration, enfants d'immigrés, beaucoup de gens de banlieue, des gens qui viennent du théâtre politique, entre guillemets, en particulier une troupe qui s'appelait Weekend à Nanterre. Et eux, ils ont investi souvent des concerts en plein air en banlieue, mais il y a eu quand même, par exemple, un concert où c'est vraiment les autonomes qui ont apporté le lieu. Il y avait un squat qui se trouvait dans le quartier de Saint-Blaise, dans le 20e, où là, du coup, il y avait un terrain vague derrière. Il y avait énormément de terrain vague dans Paris encore à l'époque. Et il y a une photo, c'est celle-ci. Donc c'est le terrain vague derrière le squat Saint-Blaise. On voit la scène qui est sur un tas de pierres, en fait, hein, un muret de pierre, avec la sono qui a été installée là, et un public de gens du quartier, de punk, de gens intéressés par la question de l'immigration, parce que Rock Against Police travaillait beaucoup là-dessus. Et alors, pour ceux qui sont hyper attentifs, il y a le futur Pierre-Paul Jacques, le chanteur de Rémi, et son frère. Donc ça, c'est entre 80 et 83. Après, il y a tout un tissu de squat qui s'est ouvert entre 81 et 83, à peu près, 84, dans le 20e arrondissement, le premier ayant été le squat des Vilains, qui se trouvait rue Vilain, dans le 20e. Ça, c'est 80-82, j'en ai une photo aussi. Donc c'est une toute petite rue à Belleville, qui était quasiment entièrement squattée. Là, ils avaient ouvert un petit bar qui s'appelait le Malfamé. Là, c'est le signe du squat, hein. L'espèce d'éclair l'entourait. Il y avait à la fois des habitations, il y avait un terrain vague à côté dans lequel ils organisaient des barbecues, et puis il y avait aussi des concerts. Et la photo d'après, c'est la destruction des squats de la rue des Vilains. J'ai plein de photos, mais en fait on voit des tonnes de cars de police qui encadrent la rue. Et sur le mur, il y a plein de graffitis, dont le groupe anglais La Discharge, The Insane, qui était un groupe anglais qui était passé en concert à Paris. Ça c'est 81-82, 82-83, il y a le squat des Cascades, il y a eu deux squats, rue des Cascades, c'est juste à côté dans le 20e aussi. Alors pour les Cascades, j'ai une photo, ça c'est un tract pour un des concerts, qui était un groupe anglais UKDK, avec le groupe français Brigade. Une ancienne usine aussi, usine occupée. Il y avait tout un mythe autour des usines. D'abord, il y a eu beaucoup d'usines dans les années 70 dans Paris, et puis elles ont fermé toutes petit à petit. Et souvent, elles étaient vides, donc elles étaient récupérées. Et pour les autonomes, il y avait un gros mythe, même si les autonomes étaient plus sur la filière du précaire, mais le mythe du prolétariat en révolte qui reprend un lieu au patronat et au capitalisme. Bien sûr, le signe du squat en haut, l'étoile, bon là, elle est noire et blanc, mais en fait, c'est rouge et noir. Hein. Et puis là, une petite photo d'un concert, c'est ce même concert, UKDK. Donc la faune, elle est tronquée, mais il y a quand même pas mal de monde. En 83, il y a un autre lieu qui s'appelle l'usine Palikao, qui n'est pas un squat, en fait. À l'époque, on pensait tous que c'était un squat, c'était également très précaire. En fait, c'est une ancienne papeterie, rue Palikao, dans le 20e, et il y a un bail précaire de 3 ans non renouvelable. Donc ça reste un lieu très précaire dans la manière dont c'était organisé, les conditions et tout ça. Moi j'ai failli au premier étage passer à travers le plancher. C'était plutôt des gens du milieu artistique qui organisent des choses, mais il y a eu quelques concerts punk, dont le premier de Beurre et Noir en fait, et un service d'ordre qui est issu du mouvement autonome. Il y a eu un grand nettoyage parisien, en particulier dans la période de la cohabitation 86-88 avec Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur. Où ça devenait moins évident d'ouvrir des squats pérennes et de grande envergure, parce que ouvrir des squats où il y a 3 personnes qui habitent dans un appart, ça a toujours été facile.
Je crois même qu'ils avaient décidé de
Oui, ils avaient bien sûr. Tous les squats que je cite ont été fermés avant Pasqua, mais là il y avait une planification. Donc du coup il y a eu un squat également assez connu qui s'appelait assez important en tout cas, l'ancienne usine de caoutchouc, grande rue à Sèvres. Alors faut savoir que Sèvres La rue des Caves a été, dans l'histoire moderne, les premiers squats de la région parisienne. C'est au départ deux couples qui demandent à la mairie de pouvoir s'installer dans un appartement vide de la rue des Caves qui allait être promise à la destruction. Ils font venir plein de gens et au bout d'un moment, toute la rue est squattée. Et du coup, il y a un rapport de force qui fait que la mairie ne peut plus les expulser. Et la grande rue, elle colle à la rue des Caves. Et il y avait cette ancienne usine de caoutchouc. Là, c'est plutôt Hot Pants, le premier groupe de Malin Chao qui a commencé là-bas. Et ça, c'est 82-84. Mais je reviens donc à l'usine. 1984-86, l'usine à Montreuil, une ancienne tannerie qui devient un dépôt de meubles. Et puis un collectif qui s'appelle Rock à l'usine qui organise des concerts là-bas. Et alors, ça ressemblait à ça. Une fermeture avec fracas, puisque ça a été muré. Ça a été démuré, il devait y avoir un concert de la Souris Déglinguée qui finalement n'a pas eu lieu, mais le public était bien présent. Du coup, évidemment, des échanges de gros mots, puis de ce qu'on trouvait sous la main avec la police. Et du coup, la police avait arrêté beaucoup de monde et avait décidé ensuite d'emmener les gens très loin, jusqu'à 100 km de Paris, après minuit, et de les relâcher un par un. Donc pour rentrer chez soi, toute une histoire. Et ce fameux gros titre du Parisien, 200 points qui attaquent la police. Voilà. Après, en 86-87, il y a une radio qui s'appelait Radio Mouvance, rue Capla, c'est à côté du FGO Barbara, hein, à Barbès. Donc c'est une radio, en fait, qui se définit comme une radio anti-impérialiste, qui est proche d'Action Directe, et qui, du coup, se fait saisir 6 fois pour le genre d'expression et d'idées politiques qu'il véhicule. Elle se transforme à un moment en fréquence à Lise et Goutte d'Or, et dans un local qui est Rikiki, ils organisent pas mal de concerts entre 86 et 87. La radio existait déjà bien avant. C'est pas un squat, mais de fait, c'est un lieu quand même à la fois précaire et à la fois dans l'interdit. Voilà. Alors, le squat comme espace de refus. Le refus, c'est quoi? C'est le refus des logiques marchandes. Donc, concert à prix modique, ou concert gratuit, ou la fameuse pratique du prix libre, qui est toujours en cours aujourd'hui dans certains milieux punk. Le refus de la marchandisation, qui est clairement hérité des situationnistes. Donc, c'est un espace qui est libéré des logiques et des contraintes marchandes. Et j'avais interviewé Harris, qui était un membre du mouvement autonome, qui a été assez actif dans ce rayonnement. Et il disait il y avait une interpénétration entre un besoin matériel, trouver un toit, et une culture politique de la réappropriation d'un bien collectif dont on se sentait exproprié par le système social, d'une sortie de la relation marchande. Le gros des activités publiques, c'était les concerts de groupes punk et rock, souvent pour recueillir des fonds pour une lutte ou la populariser. Autour des squats, il y a eu tout un réseau de production de cassettes, comme par exemple le label Visa, qui a été très important, production de disques, de fanzines, en dehors des réseaux commerciaux. Ça traduisait l'envie d'une culture qui ne soit pas réduite à la marchandise, la volonté de créer des bulles, le plus possible en dehors du capitalisme. Et puis il y a eu la tentative, donc c'est une contestation radicale qui s'inscrit contre le reste du monde, et je crois que le projet le plus jusqu'au boutisme, mais qui n'a pas vraiment abouti, c'est le projet du centre autonome occupé, donc voilà une affiche. Alors ça, c'était un projet, ils distribuaient des tracts pour trouver des bonnes volontés, pour trouver un lieu gigantesque et pérenne, et ils voulaient que l'espace soit pérenne d'activités culturelles contestataires et d'organisations politiques, instaurant gratuité totale, radicalité politique, opposition totale à l'État. L'existence n'a pas duré très longtemps sur le quai de GMAP, ça a vraiment duré très peu de temps. Et ça, c'est 1984. Donc dans les squats, on trouve, je l'ai dit tout à l'heure, rassemblement de radicaux, beaucoup de jeunes en rupture de banc, donc qui ont déserté le foyer familial, qui sont très jeunes, beaucoup de marginaux ingérables aussi, et une partie du public qui est tout simplement moins concernée par l'action politique et qui veut juste écouter de la musique radicale, mais pas forcément être dans le politique. Dans les squats dont j'ai parlé, il y a quand même eu toujours des problèmes de voisinage, c'est pas insonorisé, donc les gens qui habitent autour en ont un peu marre de ces concerts à la sauvage. Des problèmes de sécurité, il y a eu des bastons et des règlements de compte, et en particulier un qui a été très violent. En 1982, entre le squat des Cascades, les autonomes ne font pas partie des courants de lutte armée, mais ils peuvent avoir été proches, par exemple, d'Action Directe. En particulier en 82, Action Directe est légale. Ils ont une émission de radio, ils font des bouquins qui sortent. Et il y a eu en fait un autre groupe autonome qui s'appelait les Fossoyeurs du Vieux Monde, qui était plutôt pro-situ, et qui ont monté la tête à des gens pour attaquer le squat des Cascades, ce qu'une dizaine de gens ont fait, et il y a un type du squat des Cascades qui a tiré, il y a un des jeunes proches des Fossoyeurs du Vieux Monde, Patrick Reptels, qui a été abattu d'une balle de revolver. Il y a aussi le problème des overdoses, assez récurrent, et évidemment des expulsions par la police. Donc, j'en viens à ma deuxième partie, qui est 1984-1986, le bar dans le tissu urbain. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avec la période de cohabitation, le retour de la droite au pouvoir, et en particulier Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur, entre 86 et 88, l'expulsion des squats à Paris, elle devient de plus en plus systématique, donc c'est très difficile d'en ouvrir des grands pour avoir des activités publiques. Donc, on passe à une autre phrase, à partir de 1984, le bar comme espace convivial. Donc voici, en fait, en 1984, Rascal, qui donc était le premier manager des Vampas et qui faisait un fanzine qui s'appelait Creepy Crawly, fait la connaissance de Ronan, qui était prof de dessin. Et tous les deux, ils aiment les musiques différentes, rock'n'roll, punk, des tas de choses. Et ils créent ensemble Paris Baroque. Eux, c'est la tentative d'une nouvelle expérience, par nécessité, parce qu'il n'y a toujours pas de lieu. Du coup, c'est le bar, qui est à la fois un lieu de convivialité, de lien social, avec la présence de différentes tribus rock. Ils ont réussi à rassembler plein de gens, punk et dérivés, beaucoup de graphistes, parce que comme Ronan était prof de dessin, il affectionnait le fait d'avoir des tas de graphistes qui faisaient des affiches assez différentes les uns des autres, une feuille de chou aussi, qui était illustrée, qui distribuait au concert. Il y avait même la clientèle habituelle des bars qui venait, alors qu'ils n'écoutaient pas du tout de punk, mais ils venaient tous les soirs, donc pourquoi pas le soir où il y avait un concert. Et j'ai même connu des gens qui n'allaient que au concert de Paris Baroque, qui n'allaient à aucun autre concert, tellement ils trouvaient qu'il y avait une espèce de truc familial. Alors, les prix ne sont pas chers, les lieux sont petits, c'est plus chaleureux qu'une salle de concert, c'est moins précaire qu'un squat. Le premier lieu qu'ils ont eu, c'est entre 84 et 85, c'est chez Jimmy, un bar cabine de la rue de Bagnolet, qui est devenu maintenant le Gambetta, dans lequel il y a eu 36 concerts en 2 ans. Et y a Thierry Pelletier, qui à l'époque s'appelait Cochrane, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La petite maison dans la Zermie ». Il parle de la fermeture du Jimmy, dont il s'attribue la responsabilité. Il s'est battu, en fait, dans la rue. « J'ai récolté ce soir-là un des plus beaux cocards de ma vie, la moitié de la gueule doublée de volume. Elephant Man, le charme en moins. Les jours suivants, je regardais où je mettais mes lattes. Je faisais attention avant de traverser, pas envie de retomber sur la bande cruelle. Les grands des baroques m'ont pourri. Pareil qu'à cause de mes conneries, les voisins alertés par mes couinements avaient appelé les dules, les flics, qui en avaient profité pour serrer un paquet de gueulards bourrés. Le rad s'était pris 6 mois de fermeture administrative, fini les concerts. J'avais quitté papa, maman et ma banlieue pour conquérir Paris depuis une semaine. Ça démarrait velu la vie d'adulte. Donc le Paris Baroque, à l'époque, s'est reporté sur un autre bar en 85, le Montagnard dans le 20e également, et à cheval sur 85-86, un autre bar dans le 20e, l'Auvergne. C'est des espaces tellement petits qu'il y a juste une sono-voix, les autres instruments ne sont pas repris. Derrière la sono, on retrouve un certain François Adji Lazaro, au tout début des Garçons Bouchers. Mais tous ces lieux ont eu des fermetures administratives à cause des plaintes de voisinage. Du coup, à partir de 87, le Paris Baroque, qui devient les Baroques, parce qu'il y a une scission à l'intérieur, va se tourner vers des salles plus classiques. Alors, ils vont d'abord aller voir un cinéma de quartier à Belleville, qui est le Berry, qui est devenu une salle très institutionnelle, le Berry Zèbre maintenant. Ils ont fait pas mal de trucs au Gibus. Et la salle municipale dans le 14e, qui s'appelle Marius Magnin, a signalé qu'il y a une chanson du groupe Pigalle, qui s'appelle chez Rascal et Ronan, qui est un hommage au baroque et à cette période. Et à partir de 92, il y a à la fois une nouvelle équipe, parce que l'ancienne est un peu fatiguée, a envie de passer à autre chose. Mais les baroques existent toujours aujourd'hui, mais ça coïncide aussi avec une baisse de fréquentation générale des concerts rock à ce moment-là. Grand-Ville bar, pour renouer avec une tradition populaire, j'ai dit que c'était par nécessité que les baroques ou Paris Baroque avaient investi les bars, mais Ronan est très producteur d'un discours qui va avec. Pour lui, inscrire le rock'n'roll et le punk dans le tissu urbain des quartiers populaires, lui donner une densité et un sens dans un Paris qui est en train de se transformer et dont les quartiers sont premiers lambourgeoisement, ça se sentait dès le début des années 80, c'est très très important. Inscrire le rock'n'roll et le punk dans une continuité de la culture populaire, une suite naturelle des cultures populaires des décennies, voire des siècles précédents, et au niveau du public remuant, alcoolisé, résident dans l'Est parisien ou en banlieue, parfois certains étant des véritables voyous. Il y a une espèce de suite logique des Apaches des années 1900 et 1910, une continuité sociologique en moins dure, et presque une certaine fierté d'incarner cette filiation. Et j'en viens à ma troisième et dernière partie. 1986, je vais à peu près jusqu'à 1990, la professionnalisation du rock. Alors, il y a un facteur, c'est le succès du rock alternatif. Donc, un bouillonnement, des tas de groupes partout. Il y a toujours un problème crucial de salles à Paris, et même en France, en règle générale. Avec l'arrivée au pouvoir des socialistes, il y a cette initiative d'ouverture des zéniths dans toutes les grandes villes de France, mais qui ne répond pas, en fait, aux besoins et aux attentes d'une scène bouillonnante, mais qui est encore souterraine, parce que ces lieux sont trop grands. On va arriver au grand B qui est salle plus adaptée et professionnalisation du rock. C'est d'abord des acteurs et des associations de terrain qui se battent dans plusieurs villes pour l'obtention de salles de taille moyenne. Alors comme par exemple OTH à Montpellier qui a réussi à instaurer un contre-pouvoir en faisant carrément des manifs et qui a réussi à avoir la salle Victoire en gestion par Alain Voyer, le premier manager d'OTH. Et en fait, dans les municipalités socialistes en règle générale, là où il y avait une scène importante et donc où il pouvait y avoir une réclamation de salle, on va dire, cohérente, plusieurs municipalités ont répondu présent à ce genre de choses, comme par exemple le Chabada à Angers également, sous la bienveillance du ministère de la Culture de Jacques Lang, qui trouvait que ça répondait évidemment à une attente et qu'il fallait investir ce champ à la fois parce qu'il y était sensible, en tout cas il avait vu quelque chose émerger, et en même temps par calcul. Alors on se retrouve par exemple le Chabada à Angers, il est géré au départ par Gérald Chabot, le premier bassiste des punks, qui se retrouve salarié du lieu. C'est une totale nouveauté dans le milieu punk. Plus tard, toutes ces salles deviendront le réseau des salles du sigle SMAC, scène de musique actuelle, qui sont en partenariat complet avec l'institution. Donc ça, il y a aussi la mise aux normes de sécurité et d'acoustique de ce qu'on appelait les CAFCONS, les cafés-concerts. Du coup, il y a ceux qui arrivent à s'y plier, il y a ceux qui ferment. Et puis au ministère de la Culture de Jacques Lang, donc, il va nommer un monsieur rock, qui se trouve être Bruno Lion, jeune, ancien musicien. Je vais vous montrer. Ça va trancher avec... attention, ça tranche avec Rascal et Ronan. Les voici. Hein. Donc, Bruno Lion, il cherche à aider et à structurer le rock. En tout cas, c'est son discours, dont une des parties les plus vivantes du moment est issue du punk. Alors, ça va passer par quoi? La fondation du CIR, le Centre d'information du rock et des variétés, qui est devenu aujourd'hui l'IRMA. De 89 à 93, il est chargé de mission pour le rock et la chanson par Jacques Lang. Ça veut dire aider les groupes à financer des projets, les aider à aller jouer à l'étranger, protéger les artistes, les auteurs, les compositeurs, les musiciens. Bref, une véritable professionnalisation du rock, ce qui fait rentrer des tas de chanteurs ou de musiciens dans le champ des intermittents du spectacle, avec cachet déclaré, salaire, et patati, et patata. Alors, cette évolution, à l'époque, le deuxième manager d'OTH, celui qui deviendra le manager d'OTH dans un deuxième temps, Étienne Imer, je me souviens d'un très long texte dans ce genre de revue, peut-être du CIR, et il y a toute une génération de managers qui étaient de son avis. Ils vont se satisfaire pleinement de cette évolution, et ils vantent même cette évolution comme étant extrêmement positive. Et le grand C, c'est le punk dans la culture officielle. Alors, aider et structurer le rock, c'est aussi le rationaliser. Ça veut dire aider les groupes. Qui décide de les aider? C'est quand même des associations, des organismes qui sont reconnus par l'institution, financés par l'institution. Et sur quoi ils vont juger? Le potentiel musical, mais c'est finalement très subjectif. Ils vont également juger sur le potentiel organisationnel. C'est-à-dire qu'un groupe un peu trop destroy, on se dit « ouais, ceux-là, ça va jamais, ils vont jamais réussir à vraiment s'intégrer dans cette professionnalisation », donc on les oublie. Du coup, c'est un bon goût, c'est une sorte de bon goût qui est reconnu par des gens du métier, qui eux-mêmes sont plébiscités par l'institution. Alors, il y en a une preuve flagrante, c'est la création du Fonds d'action et d'initiative pour l'Europe, le FER, qui récompense donc chaque année 15 lauréats, une aide financière, une aide juridique, formation au champ, formation au management. Et l'effet pervers de la chose, c'est que le FER a récompensé souvent des groupes déjà confirmés, qui n'avaient pas tant besoin que ça d'argent, qui était déjà bien entouré, qui avait déjà un contrat. Et puis, il y a cet effet pervers, évidemment, c'est les échanges de bons procédés entre membres du jury. C'est-à-dire, le jury, il est renouvelable chaque année, donc c'est pour éviter quand même qu'il y ait trop d'encroutage. Mais au final, et ça, j'en ai été témoin, c'est « je suis tourneur, je voterai pour le groupe que tu as signé dans ton label ». Mais tu as signé aussi un groupe dont je suis tourneur, tu voteras pour le mien. Il y a eu vraiment des échanges de bons procédés comme ça, qui du coup sont un peu de la corruption. Ça mène aussi les groupes à signer sur des labels d'envergure, parce qu'il faut avoir les épaules larges pour pouvoir supporter cette professionnalisation, à travailler avec des tourneurs professionnels. Ça justifie finalement l'existence de tas d'organismes institutionnels ou financés par l'État. Et finalement, ça fait vivre tous ces gens qui vont organiser des stages de management, ces gens qui vont faire du coaching juridique pour les managers de rock, ces tourneurs, tous ces gens-là. Et ces gens-là, et en particulier les tourneurs, je les mets, c'est autre chose parce que c'est des privés, mais en tout cas tous ceux qui sont qui sont générés et qui sont mis en poste par l'institution, eux, ces gens-là vont devenir salariés et vont très bien vivre, mais bien mieux que les musiciens intermittents du spectacle qui courent après le cachet, qui n'arriveront pas forcément à avoir leurs heures. Il y a d'un côté des gens que l'institution va officialiser et va mettre dans des postes fixes avec salaire fixe, et de l'autre côté des gens dont le statut va évoluer et va rentrer dans les clous, mais avec toutes les problématiques de déclaration au fisc, donc des charges plus lourdes et finalement pour certains groupes beaucoup plus dures à gérer. Il y a aussi penser sortir de l'illégalité le rock underground en le professionnalisant. Et pour moi, c'est une conception qui est finalement extrêmement loin de l'esprit originel du punk. Ça bride forcément l'expression parce que vous êtes lauréat du fer et vous recevez une certaine somme d'argent. C'est compliqué de sortir après un disque en disant. Jacques Lang est un salaud, quoi. On s'auto-censure. C'est pas qu'il y a une censure, c'est qu'il y a forcément une auto-censure. Il y a un point de vue que je trouve très intéressant. Didier, le chanteur des Vampas, qui a toujours dit que lui, il n'avait jamais voulu être intermittent du spectacle. Bon, maintenant, il est jeune retraité, mais pendant des années, il travaillait à la RATP comme technicien. Il a toujours dit, moi, je ne voudrais jamais être intermittent du spectacle parce qu'en fait, je ne peux pas faire des concerts que je n'aurais pas envie de faire juste pour réussir à avoir mes cachets. Il faut savoir aussi que ces groupes-là, quand ils rentrent en studio signés par des maisons de disques, ils touchent des cachets aussi en studio, donc ça veut dire éventuellement brider sa créativité à un moment où on n'a rien envie de faire, mais va falloir remettre le couvert et faire un nouvel album pour avoir ses heures. Et du coup, il a toujours dit que lui, s'il avait envie de s'arrêter, il s'arrêtait, il devait rien à personne. Et puis évidemment, cette professionnalisation, c'est aussi de fait l'éradication des lieux politiques comme les squats dont j'ai parlé tout à l'heure, ou des lieux tout simplement parallèles, et finalement la disparition aussi d'une part de créativité de lieu. Et en très courte conclusion, je dirais juste que ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, c'est que finalement, toutes les formes de lieux cohabitent. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut très bien trouver... et du coup, si tous les lieux, tous les types de groupes de lieux cohabitent, toutes les conceptions et les philosophies inhérentes à ces types de lieux cohabitent. C'est-à-dire aujourd'hui, on a le bar, le centre associatif, le club, le très grand local de répète où quelqu'un va décider d'organiser un tout petit concert, la maison de quartier, la MJC, la péniche, le squat artistique, le squat politique quand même beaucoup moins. Donc finalement, et puis les salles officielles. Il y a une palette, une mosaïque aujourd'hui qui est très très large de tas de lieux et de philosophies différentes. Et j'en ai fini.
Merci. Bien, merci pour cette communication sur les espaces et les scènes punk en France. Voilà, bah écoutez, vous avez.
Il y a mes remerciements.
Hop. Vous avez la parole.
Et une pensée pour Ronan Desbarocs qui est décédé il y a quelques années.
Ah, merde.
Et trop jeune.
Oui. Alors, ça existe toujours les Baroques, effectivement.
Oui, bien sûr.
Vous avez été programmé à Saint-Ouen au Piccolo.
Oui, oui, ils font des choses là-bas. Ouais. Donc c'est plus du tout la même équipe, il n'y en a plus aucun en commun. Mais,
Et alors, je me posais la question parce que, alors, souvenir beaucoup plus ancien avec Kick de Stocking avait été programmé par Rock à l'usine, mais à l'époque, c'était après les 200 punks qui attaquent la police, et c'était resté une asso, mais qui programmait à Pontoise. Ça te dit quelque chose?
C'est vrai. C'est vrai.
Et on a joué avec les garçons bouchés, avec des anglais, enfin, des concerts hallucinants. Hein. Donc, en fait, ils avaient en fait projeter en quelque sorte leur programmation ailleurs. Ouais. En fait. Et je trouve que c'est une des forces aussi des squats quand ils se sont, squats ou assaut ou collectif, quand ils se sont assez bien structurés, c'est d'avoir survécu parfois à la chute des murs.
Quoi. Parce que c'est un groupe de gens qui tissent un lien très fort et continuent après. Ouais. Ouais.
Donc voilà, juste faire cette remarque.
T'as oublié le squat de Beaux-Arts peut-être,
non? Il y a eu des concerts au squat de Beaux-Arts?
Ah oui, bien sûr, oui.
Ah merde. Alors, j'avoue, j'ai oublié. Je le savais, mais je savais pas. Ouais. Ouais.
Bon, si personne ne pose de questions, je fais une autre remarque. Alors, j'ai bien aimé le... Enfin, tu vois, moi, je dirais, quand tu parles de Jack Lang, Bruno Lyon, etc., c'est... Alors, bien sûr, il y a la conséquence, une forme de professionnalisation, mais c'est avant tout, pour moi, ça a été une institutionnalisation de ce que vous pouvez être, tu vois.
J'ai dit plusieurs fois que c'était l'institution qui en tient
parce
le plus
que,
autour.
Parce que, quelque part... Et alors, bon, la question que je me pose toujours, parce que c'est... Et tu la poses à ta manière, c'est... Bon, il y a toujours du bon à prendre quand il y a quelque chose qui arrive, si tu veux, même dans une politique...
Ce sont des salauds sympathiques.
Mais, si tu veux, c'est très paradoxal, en quelque sorte, parce que, effectivement, ça met, d'une certaine façon, le punk et les groupes punk dans une position un peu ambiguë, si tu veux, parce que soit t'acceptes la manne et puis t'es perçu comme un traître à la cause, mais en même temps... Non, mais
À l'époque, il n'y a pas grand monde qui les a trouvés traîtres. Je simplifie,
mais non, mais après coup, surtout. Oui, oui. Surtout après coup, ouais. Surtout 20 ou 30 ans après, pas sur le moment où... Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, bon, est-ce qu'il faut crever la bouche ouverte, même, tu vois, en étant... En fait, ça pose vraiment des questions que je trouve assez fondamentales, parce qu'avec Solveig, ça fait longtemps qu'on la pose la question de ce mal-être du punk par rapport à réussir quelque chose, tu vois, je mets des guillemets à réussir, tu vois, à un moment donné, bon, est-ce que la vocation du punk, c'est finalement, définitivement, de rester dans des squats voilà. Ou est-ce qu'à un moment donné, on peut négocier, et c'est là que ça devient complexe, sur les espaces de négociation, tu vois, je pense au squat, il me semble que c'est la roue libre, qui à Fontenay, qui a négocié un fonctionnement avec quand même des petites subventions municipales et qui garde une très très forte autonomie. C'est un modèle particulier, d'autogestion quand même.
Les tanneries à Dijon, qui reçoit pas de subventions.
Tu vois, c'est des modèles où là, on entre dans une complexité, je trouve, d'analyse qui est intéressante, en fait, parce que les types ont pas envie d'accepter, tu vois, comme ça, ils négocient pied à pied, et en même temps, je pense que le pouvoir politique est content de pouvoir s'appuyer sur des vraies compétences, et puis finalement, on laisse les mecs se démerder. Donc ces zones de négociation, je les trouve hyper importantes, en fait. Tu vois, parce que bon... Et puis pour terminer mes remarques, c'est sur le fer, alors moi j'ai été bénéficiaire du fer avec mon frère en 92, donc quasiment à la création, mais je peux te dire qu'on n'était pas du tout un groupe repéré.
Non, je vais pas dire tous.
C'est-à-dire qu'en fait,
Regarde, après les années, tu verras la liste des groupes.
Si je repense au groupe en plus qui était avec nous, à l'époque, c'était sympa, tu vois, d'avoir... Alors, plus que la manne financière directement, c'était d'avoir des compétences qui se mettaient à ton service. On avait un producteur qui était venu nous faire une résidence, enfin des choses finalement qui étaient assez bienvenues à un moment donné.
En fait, le drame du fer, c'est qu'au début, il récompense des groupes qui en ont besoin, mais plus le fer devient une institution avec les années, ça veut dire aussi que plus ce milieu musical se professionnalise. Et quand moi, je me souviens très bien. Ils ont attribué le fer à IAM quand on était à son deuxième album. Mais il n'y a pas que.
Il y avait deux choses à l'époque qui étaient importantes pour les groupes qui essayaient d'avancer. C'était le fer, qui était tout nouveau, et les découvertes Printemps de Bourges, en fait, qui amenaient autre chose encore, mais qui potentiellement pouvaient te projeter. Nous, on a tourné en Pologne comme ça, alors que c'était. Enfin, c'était inespéré, quoi. On était un petit groupe Bordeaux et mon frangin. Donc c'était. Il y a quand même aussi. Enfin, je reviens sur mes zones un peu grises, tu vois. C'est jamais tout blanc ou tout noir, quoi.
En plus, moi, j'ai aucun jugement personnel sur les membres des groupes qui ont choisi telle voie ou telle voie ou telle voie. J'ai juste exposé trois époques où vraiment il y a, il y a vraiment l'émergence de trois choses
différentes. Et là, vraiment, je trouve, on se souvient vraiment de la politique d'éradication, enfin, qui avait déjà commencé avant, mais Pasqua, Pandro et compagnie, enfin, vraiment, ça. Et puis, effectivement, qui se croise avec cette logique d'institutionnalisation culturelle du rock, avec tout ce qu'on connaît. Et Bruno Lyon, il est directeur de la SACEM aujourd'hui.
Oui, j'ai été voir ce qu'il était devenu. Il vieillit bien.
Et des squats, il en était né à nouveau quand même. Il y a eu quand même plusieurs vagues.
Ah oui, bien sûr.
Il y en a toujours.
Intramuros, c'est quasiment impossible.
Voilà. Mais il y a quand même eu, après la fermeture de tout cela.
Non, mais il y a eu la miroiterie. De toute façon, c'est un exemple important.
La miroiterie, mais bien
la petite maison,
oui, la petite maison dans le 11e. La grande différence avec ces squats dont je parlais là, c'est que ces squats étaient quand même des squats tenus par les autonomes avec un affichage politique extrêmement dur. Quoi. Ça fait quand même moins peur que des jeunes qui veulent jouer de la musique, point.
Des squats d'artistes.
Oui.
Plus ou moins.
Enfin, ça fait plus peur.
Plus plutôt,
ouais.
Bon, mais écoutez, on va remercier Philippe une dernière fois.
Merci à vous.
On va y conclure la journée.